Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Chers auditeurs de Radio Kapi, bonsoir et bienvenue. Merci d'être nombreux à l'écoute de ce journal sur Radio Okapi. Commençons par le titre. Dialogue direct Kinshasa M23 AFC. Le réseau national pour le développement des femmes appelle à un dialogue élargi pour une paix durable. Dans une déclaration, les femmes de cette organisation plaident pour la participation des autres pays voisins et des forces vives de la nation à ce dialogue. Tension politique au Tanganyika. Des proches du gouverneur accusent certains hommes politiques de la province de tenter de déstabiliser l'exécutif provincial. Le professeur Dieudonné Louis Tambwe Kasonga Mwimba, coordonnateur de la cellule technique de coordination et de planification minière, revient pour expliquer l'importance de cette structure face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Il est l'invité de ce journal. Restez avec nous pour en savoir plus. Ce journal s'ouvre par cette information. La première ministre est arrivée ce dimanche à Bandunduville, dans la province du Kwilu, pour continuer à mobiliser tous les Congolais dans le cadre de la campagne Congolais Téléma visant à défendre la patrie. Judith Soumino a tenu un meeting à la place Onatra où elle a annoncé que de ce mois de mars, le salaire des policiers et des militaires sont doublés. De plus, le gouvernement prévoit une prime pour les volontaires qui vont intégrer l'armée. Son agenda de la journée inclut également une réunion provinciale de sécurité ainsi que des audiences avec les députés nationaux et provinciaux, le gouvernement provincial et le représentant de diverses associations de la société civile de cette région. Le lundi 17 mars, donc demain, la chef du gouvernement, Judith Soumino Tuluka, va s'envoler pour Kikwit, une autre grande ville de la province du Kwilu, afin de poursuivre son itinérance. En prélude au dialogue direct entre Kinshasa et le M23 AFC, le consortium pour la paix et le développement CPD demande au président angolais, également président de l'Union africaine, d'élargir l'initiative du dialogue au-delà du M23 et de l'AFC. Dans une déclaration faite hier samedi au siège du réseau national pour le développement des femmes RENADEF, le CPD plaide pour la participation des autres pays voisins et des forces vives de la nation à ces dialogues afin d'assurer une paix durable non seulement en RDC mais aussi dans toute la région de Grand Lac en comptant sur l'apport considérable des femmes de la sous-région. Il faut adopter une approche holistique de problèmes pour résoudre la crise sécuritaire en RDC et dans toute la région de Grand Lac, a déclaré la coordonnatrice du CPD, Marie Nyombo Zaina, au micro de Jeff Ngoy.
Le consortium affirme que les femmes, les jeunes et les enfants de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac constituent plus de 70% de la population qui inspire à vivre dans un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale, gage inéluctable d'un environnement favorable au développement pour leur meilleur avenir. Le consortium sollicite de son excellence Monsieur João Lorenzo, président de la République d'Angola, de ne circonscrire cette initiative qu'au dialogue direct entre, d'une part, le gouvernement de la République démocratique du Congo et, d'autre part, des délégués de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement M23, car la crise étant multiforme, la participation des autres États voisins, des acteurs politiques nationaux, de la société civile est le gage d'une résolution holistique des problèmes et d'un retour définitif de la paix.
Sachez aussi que la délégation de la RDC compte se rendre mardi à Luanda pour répondre à l'initiative du médiateur angolais João Lorenzo tendant à relancer le processus de paix violé et saboté par Kigali et ses supplétifs du M23 AFC, selon un communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse ACP ce dimanche. Jusque-là, la composition de la délégation et ses missions ne sont pas encore connues officiellement, mais Mambo Sita Sumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a remis un message de la RDC au médiateur angolais dont les contenus n'étaient pas divulgués. En lien avec la guerre menée par le M23 AFC avec leurs alliés, la province de la Tchopo n'a pas besoin des prétendus libérateurs. Ceux qui sont arrivés depuis 1997 ont causé plus de 10 millions de morts dans le pays. Elle a besoin de paix, non de guerre, pour son développement et celui de la République tout entière. Les jeunes doivent s'engager au sein des FARDC pour défendre la souveraineté du pays. Tel est le message du ministre des Finances, Doudou Roussel Fouamba Likoundé, lors d'un meeting populaire tenu hier samedi à la place de la Poste. Il s'est exprimé ainsi dans le cadre de la sensibilisation de la population locale à l'éveil patriotique. Reportage Jacques Moukonkolé.
C'est un monde innombrable, massé à l'esplanade de la Poste pendant plusieurs heures, attendant le message du ministre des Finances, entouré du gouverneur des provinces et du président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de quelques députés nationaux et provinciaux. Doudou Fouamba Likoundé n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dérouler son message. Il a commencé par rappeler l'expérience des années 2000 dans la Tchopo, allusion faite à la présence des armées étrangères ayant causé des milliers de victimes dans cette entité, des morts, des blessés, des personnes ayant perdu leurs membres ont été enregistrés, a-t-il précisé, et d'ajouter que l'arrivée au pays des soi-disant libérateurs a engendré plus de 10 millions de morts. Les habitants de la Tchopo ne doivent pas se laisser manipuler ni diviser par des politiciens, a-t-il martelé. Pour cela, Doudou Roussel Fouamba exhorte la population à la vigilance parce qu'elle a besoin de la paix pour la poursuite des travaux de développement en cours. Sans cette paix, tout va s'arrêter, a insisté le ministre des Finances. Envie d'assurer l'intégrité et la souveraineté de la RDC, il exhorte les jeunes à se ranger derrière le chef de l'État en adhérant au FARDC. La paix va revenir notamment par la diplomatie, sinon par la force, a-t-il renchéri. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À la fin de cette adresse, beaucoup de jeunes ont suivi les autorités à la 31e région militaire pour se faire enregistrer en vue d'entreprendre la carrière militaire au sein des FARDC. Dans la province du Bas-Ouélé, la société civile Force Vive et les notabilités de la chefferie Mopoy, territoire d'Ango, plaident pour le rapatriement des enfants de leur entité, victimes de la LRA, 62 enfants sont internés au camp de transit de Goulou. Nous sommes en Ouganda dans une correspondance adressée à la présidente de l'ONG Pax Pays-Bas basée en Ouganda avec copie aux autorités nationales et provinciales. Les signataires de ce document plaident pour le rapatriement de ces enfants en RDC. Le président de la société civile Force Vive de la chefferie des Mopoy explique les circonstances de l'enlèvement de ces enfants et plaide pour leur rapatriement. Théophile Zabine Zéguino a été joint par Jacques Moukonkolé.
L'ONG internationale PAX, basée en Ouganda, représentée par Marianne Moore, et l'ONG congolais à Pérou, basée à Farage, représentée par Jean-Claude Malitano, étaient allés démobiliser ces combattants de la LRA dans les camps de Mbog et les camps de Zemio, et ils ont réussi l'opération où on a ramené les combattants LRA avec quelques de nos enfants en Ouganda. Alors, après la promesse de 2024, au mois de mars, que nos enfants seront rapatriés en RDC le plus vite, cette promesse est restée morte. C'est pourquoi nous réclamons aux autorités du pays et à l'ONG PAC qui continuent à protéger nos enfants en Ouganda que nous voulons leur rapatriement et la réunification si vite ils soient dans leurs familles respectives. C'est pourquoi nous avons écrit à toutes les autorités du pays, à commencer par le président de la République, madame première ministre, ainsi que les gouverneurs des deux provinces, Haut et Bas-Ouélé, et les administrateurs du territoire, assemblent avec eux qu'on puisse réfléchir comment on peut booster et arriver à rapatrier nos enfants le plus tôt possible dans leur famille.
Rappelons que selon la société civile Force Vive de la chefferie Mopoy, les opérations d'enlèvement des enfants dans les territoires d'Ango et de Bondo ont commencé depuis 2009 et se sont étendues jusqu'en 2020. En Ituri, la société civile locale de Djougou alerte sur la situation humanitaire préoccupante des milliers de déplacés de Djaïba et de la chefferie de Savo qui passent la nuit depuis un mois à la Belle Étoile, proche des positions des FARDC et de la MONUSCO. Une situation qui se détériore pendant cette période de pluie où des enfants sont exposés au froid et aux maladies. Cette structure citoyenne demande au gouvernement de renforcer les effectifs des militaires pour leur permettre de regagner leur village d'origine qui sont encore sous les menaces permanentes de groupes armés. Le point avec Isaac Remoyope.
Ces déplacés ont abandonné leurs abris au site de Djaïba, proche de Fataki et de la plaine de Savo. D'autres ont quitté leurs maisons, notamment dans les villages de Lindou, Laoudjo, après les attaques meurtrières de février dernier, pour passer la nuit à la Belle Étoile, notamment à Boulou et à la présence des FARDC. Pendant la pluie, leur état est critique, affirme l'hôpital civil du territoire de Djougou. Sans couverture et natte, la plupart de ces sinistrés sont obligés de rester debout jusqu'à la cessation des pluies, ce qui risque d'être pire encore pendant la saison des pluies en cours, alerte Gilles Tchouba. Les cas de maladies, dont l'infection respiratoire aiguë qui dépasse plus de 1000 cas chaque mois au centre de référence de Boulé, vont croître, ajoute-t-il. Cette stricteur citoyenne déplore l'indifférence du gouvernement aux souffrances de la population. Elle plaide pour le renforcement des effectifs des militaires pour leur permettre de retourner dans leur village et dormir dans des conditions confortables, Gilles Tchouba.
Doit être abondante à la ville. Maintenant, on va dormir dans la rue comment ? Qu'on n'a pas de militaires ici, il n'y a pas de militaires à Fataki, ni à Djaïba.
Ces personnes souffrent également de faim car ils n'ont pas accès à leurs champs occupés par les groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Congo central, dans le cadre de l'opération Dobo, la police nationale a arrêté deux grands fournisseurs des chanvres dans la ville de Matadi, dont un adjudant des forces armées de la RDC. 10 sacs remplis de chanvres leur appartenant ont également été saisis. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ces deux fournisseurs ne sont pas à leur premier forfait. Israël Kantou Bakoulou, qui les a présentés à la presse, invite la population à dénoncer ceux qui font ce commerce. Il met en garde tous ceux qui s'adonnent donc à ce pratique. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Il s'agit de Mavambu Kitchofi alias Muketonga et de Barume Moïse, adjudant chef du quartier général de la 12e région militaire. Tous grands fournisseurs du chanvre dans la ville de Matadi et récidivistes. Ils ont été appréhendés chacun avec 5 sacs remplis de chanvre ainsi que des rouleaux de papier de couleur kaki servant à emballer les chanvres vendus en détail. Les commissaires provinciaux de la police qui les a présentés regrettent le fait qu'il y ait certains éléments de force de l'ordre dans l'insécurité que vit la population. Israël
chose malheureuse que je suis en train de déplorer, toujours en revenant sur un adage qu'un de mes anciens de l'armée nous disait, si vous voyez l'insécurité persister, c'est que les gens de l'ordre, ils sont dans cette insécurité-là. Voilà un adjudant chef des forces armées de la République démocratique du Congo, il est ici dans ses salles besoin de vente de cannabis. Je ne sais pas si nous, les agents de l'ordre, nous commençons à faire ça, comment on doit éduquer la population. C'est ainsi dénoncer tout ce monde, c'est le maire s'est corrompu par ce genre de pratiques. Parce que quand ils prennent leur chambre, ils fument bien, ils prennent les bombées, c'est qu'ils n'ont pas crainte de faire blesser ou de violer une dame d'autrui.
Outre ces vendeurs de chanvre, la police a aussi appréhendé ce vendredi plusieurs présumés malfaiteurs à travers l'opération Dobo. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Comme annoncé dans les titres, un climat malsain règne depuis quelques jours dans la province du Tanganyika, dont plusieurs articles parus dans des médias en ligne. Des proches du gouverneur du Tanganyika accusent certains hommes politiques de la province de tentatives de déstabilisation de l'exécutif provincial. En réaction, le représentant dont les Tanganyika des personnalités citées met en garde les proches du gouverneur Christian Kitungwa. Explication Paulin Munanga.
Dans ces articles, les médias en ligne font savoir que des proches du gouverneur Kitungwa citent la sénatrice Vicky Katumwa et le ministre du plan Guylain Nyembo comme étant les instigateurs de ces manœuvres de déstabilisation du gouverneur du Tanganyika. Cela malgré le fait que la province traverse une situation sécuritaire particulière à la suite de la guerre dans l'est du pays, précise-t-on dans ces articles. Dans un point de presse hier à Kalemi, le porte-parole de Vicky Katumwa a fait savoir que la sénatrice n'a aucun intérêt à déstabiliser ni perturber un gouvernement provincial qui n'a que quelques mois. Au contraire, Jeannot Mouilamboué affirme que la sénatrice soutient les actions de sa province et met en garde les auteurs de ces accusations.
Cette communication vaut avertissement et mise en garde à quiconque s'hasarderait d'associer l'honorable Vicky Katumwa à une entreprise qui n'a ni tête ni queue. La population veut plutôt se sentir en sécurité, voir les programmes d'action du gouverneur de province sur base duquel il a été élu, connaître ne serait-ce qu'un début d'exécution.
De son côté, le coordonnateur provincial du regroupement politique AABG, dont Guylain Nyembo est autorité morale, a aussi dans un point de presse à Kalemi, rejeter toutes ces allégations.
$750,000 américains, c'est l'enveloppe allouée par le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires CERF des Nations Unies. Ce financement vient en soutien aux efforts visant à contenir la flambée de choléra qui sévit dans la province du Nord Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. D'après cette organisation, cette somme permettra à l'UNICEF, à l'OMS et à leurs partenaires d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement ainsi qu'aux services d'hygiène et de santé, réduisant ainsi le risque de propagation et garantissant des soins vitaux aux populations affectées. D'autres détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
Ce financement du CERF est une manière concrète de prévenir une épidémie de grande ampleur. Investir dans la réponse et la prévention maintenant sauvera des vies et évitera des dépenses bien plus lourdes plus tard, a déclaré Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC. Entre janvier et début mars 2025, la ville de Goma est devenue le nouvel épicentre de la flambée du choléra avec 68% des 1846 cas enregistrés sur la période dans toute la province du Nord Kivu. Déjà endémique dans plusieurs provinces du pays, la propagation rapide est favorisée par les conditions de vie précaires des communautés vulnérables confrontées à la violence et à l'extrême pauvreté. La RDC traverse l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde, avec plus de 21 millions de personnes ayant de multiples besoins. Depuis fin janvier 2025, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu font face à une recrudescence du conflit marquée par l'offensive du groupe armé M23. Les affrontements violents ont provoqué les déplacements forcés de centaines de milliers de personnes et ont eu un impact sur la fourniture des services des bases, aggravant les risques de propagation des maladies liées à l'eau comme les choléras.
Dans la province du Maniema, la population des Kayembe est privée de communication. Kayembe, chef-lieu du secteur de Bébé Salamabila, situé à 345 km de Kindu, ne dispose d'aucune antenne de télécommunication. Le chef de secteur lance un SOS aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour résoudre ce problème. Écoutons Chabani Moussafiri Sauveur, secrétaire administratif du secteur des Bébé Salamabila et chef des secteurs par intérim joints par Florence Kizalunga.
Nous avons des besoins vitaux, notamment l'accès à une bonne route, à l'eau potable. L'électricité n'est pas un rêve ici chez nous. Nous pensons que le gouvernement fera de sorte que les gens vivent une réalité. Mais il s'ajoute une autre difficulté très majeure à Kayembe. Nous avons une population estimable à 12 000 habitants adultes pouvant utiliser le téléphone mobile, mais nous n'avons aucune antenne permanente de communication. Pour communiquer, il faudrait se déplacer à 2 km, monter une colline et ensuite accéder maintenant au réseau. Vous savez, dans le monde actuel, nous avons des petits villages qui ont des antennes. Mais nous, à Kayembe, une grande communauté, n'avons pas une antenne permanente. Nous avons déjà écrit, que ce soit à Vodacom, que ce soit à Airtel, mais sans succès. C'est la difficulté la plus majeure que nous avons soulevée aussi aux autorités pour que les personnes de bonne volonté nous assistent. Nous avons des enseignants qui sont payés par M-Pesa. Il faudrait qu'ils se déplacent à 30 km, soit à Wamaza, soit à Salamabila, pour recevoir leur salaire. Avec toutes les conséquences possible. Les routes qui ne sont plus accessibles et aussi l'insécurité comme tout le monde les connaît.
Actualité internationale. Le président ukrainien accuse la Russie de retarder à dessein les discussions sur la trêve de 30 jours proposée par Kiev et Washington. En une semaine, les forces ukrainiennes ont été obligées de reculer dans ce territoire russe conquis par les Ukrainiens à l'été dernier. Pour Volodymyr Zelensky, la Russie veut obtenir des positions plus solides sur le champ de bataille avant un éventuel cessez-le-feu. Et de fait, les forces russes continuent de pousser et de gagner du terrain dans la région des Koursek. Chaque jour, la Russie revendique de nouvelles avancées dans la région de Koursek et l'Ukraine reconnaît être obligée de se replier devant la poussée des forces russes. En une semaine, donc, l'armée russe a repris une partie importante de ses territoires conquis au mois d'août par les Ukrainiens à la surprise générale.
L'invité.
Notre invité est le professeur Dieudonné Louis Ntambwe Kasonga Mwimba, coordonnateur de la cellule technique de coordination et de planification minière, une structure du ministère de Mines. Il explique l'importance de cette structure dans le contexte de l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23 soutenu par le Rwanda. Le professeur Dieudonné Louis Ntambwe Kasonga Mwimba s'entretient avec Alain Irung.
Professeur Dieudonné Louis Ntambwe Kasonga Mwimba, bonjour. Pouvez-vous nous présenter la CTCPM en quelques mots?
La CTCPM, cellule technique de coordination et de planification minière, est l'organe technique de conseil et d'études du ministère des Mines. Créée en 1978 par l'ordonnance 78-1353 du 11 avril 1978, la CTCPM est le point focal de toute information qui a trait au secteur minier dans la République démocratique du Congo. Elle est née d'un colloque sur l'optimisation minière congolaise, ayant défini ses termes de création et son fonctionnement. L'idée était d'avoir un organe spécialisé qui échappe aux contraintes et aux pesanteurs de l'administration traditionnelle et qui soit à même de proposer des mesures susceptibles de surmonter les difficultés de l'industrie minière de l'époque, qui sont d'ailleurs pratiquement les mêmes aujourd'hui, hein, tout temps et toute proportion gardées.
Vous le savez, professeur, l'agression dont la RDC est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda est liée notamment aux ressources minières. Quel rôle la CTCPM peut jouer en tant que service du ministère des Mines?
La cellule technique de coordination et planification minière a bien entendu son rôle à jouer face aux différents défis que peuvent constituer la guerre ou, de manière plus globale, les transitions que nous connaissons, transition énergétique, transition numérique, qui ont un immense besoin de substances minérales pouvant servir à la production, au transport des énergies vertes, renouvelables ou au numérique tout simplement, et dont la RDC est un immense réservoir. En parlant du Rwanda, la guerre injuste que mènent des puissances étrangères via le Rwanda et ses proxys, notamment les supplétifs du Rwanda en République démocratique du Congo, qui sous prétexte de démocratie ou sous prétexte de poursuite de forces étrangères menaçant, n'est-ce pas, le Rwanda, sont en train depuis bientôt 30 ans de piller systématiquement nos ressources naturelles pour la promotion ou le développement des économies les plus avancées. Certes, oui, cela constitue un champ de réflexion. Et la CTCPM n'est pas en reste. Il faut dire que déjà dès 2006, la CTCPM avait réfléchi avec les partenaires techniques, financiers, traditionnels au développement de notre pays sur des pistes de solutions. À l'époque, il avait été envisagé la mise en œuvre d'empreintes signalétiques minérales, exactement comme l'empreinte digitale pour nous, les hommes, n'est-ce pas ? D'un point de vue géologique, on peut dire qu'un minerai vient de telle partie, de telle zone, à partir, n'est-ce pas, de ses caractéristiques géologiques. C'est ça qui constitue l'empreinte minérale de la substance. Nous avons donc travaillé, n'est-ce pas, à l'élaboration de ces fiches signalétiques, identitaires, au sein de la CIRGL, notamment pour les minerais 3T, c'est-à-dire étain, tungstène, le coltan.
Enfin, quelle impulsion pensez-vous amener en tant que nouveau coordonnateur de la CTCPM?
Alors, en tant que nouveau coordonnateur de la CTCPM, je pense pouvoir apporter comme impulsion nouvelle la capacité de remettre les experts de cette institution savante au front de la réflexion pour émettre des avis et des recommandations qui soient à même d'optimiser l'activité extractive minérale, notamment à l'heure des alliances stratégiques basées sur un nouveau paradigme qui pourrait venir d'outre-Atlantique, celui des minerais de paix, pour nous faire oublier l'ère des minerais de conflit. Nous poursuivrons par ailleurs notre politique de formation des experts, et cela passe par différents programmes de renforcement de capacités et des séminaires, aussi bien en interne qu'à l'extérieur du pays. Voilà ce que je pourrais déjà dire en ce moment précis, et j'espère que nous aurons l'opportunité de revenir ici à Radio Okapi pour développer davantage.
Professeur Dieudonné Louis Tambwe Kasonga Mwimba, merci.
Notre invité, le professeur Dieudonné Louis Tambwe Kasonga Mwimba, répondait aux questions de Alain Irung. Ainsi s'achève cette grande édition de ce soir sur Radio Capi, à la mise en onde Jean-Claude Siala, coordination Jude Mister Bilanda, supervision Alain Irung Moussins, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement les programmes de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Capi.